Europe 1,
midi 14h,
la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, vous êtes les acteurs du changement et ce sont vos actions, vos projets que nous aimons mettre en valeur car nous croyons que c'est ce qui peut faire avancer la société, l'aider à se transformer pour bâtir celle de demain, pour accueillir ceux et celles qui croient. À mes côtés, elle est là chaque jour, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Clara Audruy qui nous rejoint toute cette semaine pour le fonds d'investissement Cap Horn. Bonjour Clara.
Bonjour Raphaël, bonjour Elisabeth et bonjour à toutes et à tous.
Non, on est ravis de vous retrouver chaque jour, hein, vous le savez, vous connaissez évidemment l'émission. Nous donnons la parole à une jeune start-up qui se lance pendant la crise. C'est vrai que c'est une drôle de période, mais quand on y croit, eh bien, vous savez quoi, on fonce. Et c'est ce qu'a fait Maud Caillot. Bonjour Maud.
Bonjour Elisabeth, bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous avez 26 ans, vous êtes la cofondatrice de Green Got. Alors, c'est une néobanque verte qui devait en principe être lancée au mois de mars. Du coup, le confinement vous a mis en retard, mais le projet est toujours sur les rails. Alors, d'abord, c'est quoi une néobanque verte? Vous avez évidemment 1 minute 30 pour nous donner envie d'adhérer au projet. C'est parti.
Alors, oui, donc Green Got, en fait, c'est la réponse à un problème énorme, mais hélas bien trop méconnu, celui des émissions carbone de notre argent à la banque. En fait l'argent que nous avons à la banque l'investit. Et les principales banques françaises investissent beaucoup, beaucoup trop dans les industries fossiles. Un chiffre, par exemple, les investissements des 4 plus grandes banques françaises émettent chaque année près de 5 fois plus de CO2 que la France entière. Donc, on a d'un côté des millions de personnes qui, tous les jours, font des efforts dans leur quotidien, dans leur consommation, dans leur transport, pour diminuer leur empreinte carbone et préserver notre environnement. Et de l'autre côté, eh bien, on a leur argent à la banque qui finance exactement tout le contraire. Donc, chez Green Got, on veut changer ça. On est une néobanque verte qui permettra à ses utilisateurs, dès le premier euro sur leur compte, de ne plus financer le fossile, mais au contraire de financer la transition écologique. Parce que, du coup, pour l'utilisateur, ça ne change rien. C'est toujours le même montant sur son compte, c'est juste l'argent en fait qui travaille de manière différente, à préserver notre environnement, notre avenir, et plus à le détruire. Donc pour lui ça ne change rien, mais en fait pour la planète ça change tout. Donc depuis le lancement on a reçu un soutien formidable, et il nous en faut encore et toujours pour faire sortir de terre cette première néobanque verte. Pour nous soutenir c'est très simple, ça prend 2 secondes, il faut aller sur le site green-got.com, Green comme vert et God G-O-T, et se préinscrire en laissant son mail. C'est sans engagement et ça nous permet d'avoir une visibilité. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui.
Oui, ça fait 10 jours, hein, effectivement, que le projet est lancé. Donc, ça démarre. On va voir tout de suite ce qu'en pense Clara Audruy, notre coach.
Bonjour Clara.
Oui, bonjour. Alors en effet, on ne voit pas forcément le rapport direct entre le monde bancaire et le réchauffement climatique, mais tel que vous l'expliquez, ça devient plus clair. Alors une première question peut-être sur l'offre en fait de Green Got. Il y a tout un tas d'activités bancaires dans le monde traditionnel, les dépôts, les véhicules d'investissement, les comptes bancaires. Où se situe Green Got exactement?
Oui, alors nous, notre offre, en fait, elle va permettre d'avoir un impact positif grâce à 3 leviers majeurs. Le premier, c'est un compte courant. En fait, nous voulons commencer, nous, par le compte courant, car c'est le seul compte que tous les Français ont. Il y a plus de 600 milliards qui dorment dessus, et c'est en fait un levier immense pour avoir un réel impact dans sa vie quotidienne. Donc nous, ce compte courant, il n'aura pas d'impact négatif, il n'aura pas non plus d'impact neutre, puisqu'il ne dormira pas sur un coffre. Mais il aura un impact positif, car il travaillera pour la transition écologique. Le deuxième levier qu'on veut mettre en place, c'est la possibilité pour nos utilisateurs de compenser une partie de son empreinte carbone en plantant des arbres à chaque transaction. Alors, on ne dit pas que planter des arbres, c'est une solution miracle. On dit que ça reste le seul outil efficace aujourd'hui à notre disposition pour absorber le CO2 déjà émis et préserver la biodiversité.
C'est-à-dire à chaque transaction, qu'est-ce que vous entendez par là ?
En fait, on mettra en place un paramètre d'arrondi, c'est-à-dire que quand vous payez votre café, par exemple, 2,90 €, il vous sera demandé si vous voulez faire un arrondi, c'est-à-dire par exemple payer 2,95 € ou 3 €, et ce montant de l'arrondi arrivera sur une cagnotte qui, chaque mois, permettra de planter des arbres en France ou dans le reste du monde, là où il y en a le plus besoin.
Elisabeth ?
Vous dites que vous êtes une banque, une néo-banque verte. Comme on est en plein dans cette tendance en ce moment, vous ne craignez pas que les banques traditionnelles que l'on connaît tous ne se mettent pas aussi sur ce créneau ?
Alors, bien sûr, c'est une question très légitime. Les banques actuelles, par exemple, les quatre plus grandes banques françaises mettent en avant dans leur communication une très grande part de l'environnement, des politiques RSE, des politiques d'exclusion sectorielle. Et elles font beaucoup, beaucoup pour ça. En tout cas, elles essayent. Cependant, intrinsèquement, leurs actifs sont carbonés, et ce, depuis leur création aux révolutions industrielles. Et quelquefois, leur discours vert ne s'accorde pas vraiment avec leur action. Par exemple, il y a une étude qui est sortie il y a une semaine, pas plus, qui montre que certaines banques françaises ont doublé leurs investissements dans les énergies fossiles. Voilà. Donc on pense vraiment qu'aujourd'hui, il y a une demande, un besoin de la jeune génération, en tout cas, qui est et qui sera la plus impactée par ce réchauffement climatique. Et c'est de toute évidence confirmé depuis ce lancement, puisque on est très soutenu. On a eu plus de 2000 préinscriptions en deux semaines.
Combien, vous dites ?
Alors, 2000 préinscriptions en deux semaines, un très large soutien de nombreuses communautés, de nombreuses candidatures aussi, et toujours 0 € dépensé en publicité. Donc on est sur une croissance purement organique et beaucoup, beaucoup de soutien aussi, des voix qui portent un peu plus dans le niveau, dans la scène écologique.
Clara Audrey.
Peut-être un mot sur le modèle économique, comment Green Got rémunère ses collaborateurs et son développement ?
Bien sûr. Alors le modèle économique, il est très simple et clair, c'est une souscription mensuelle. Nous, on veut proposer le prix juste, proposer le prix le moins cher, mais un prix juste et transparent. Car aujourd'hui, on voulait partir sur de la gratuité, mais aujourd'hui, quand on ne paye pas, c'est que bien souvent, c'est nous le produit. Et du coup, cela va à l'encontre de nos valeurs. Donc, on veut proposer le prix juste, le prix transparent, celui que ça coûte aujourd'hui d'avoir un compte bancaire indépendant et décarboné.
Merci beaucoup, Maud Caillot. Ça s'appelle Green Got, c'est lancé depuis 10 jours. C'est donc une néobanque verte pour qu'on puisse mettre notre argent finalement dans des projets qui sont bons pour la planète. Merci d'avoir été avec nous. C'est la start-up qui s'est lancée pendant la crise.
Il est 13h15.
Europe 1.
On reste ensemble sur Europe 1. Faire garder ses enfants, pas simple, avec les nouvelles règles de vie. La solution, c'est peut-être bien Nanny Please, qui, vous allez le voir, a adapté son offre à la crise. On en parle avec Elisabeth Assayag.
Il est 13h18, c'est l'heure de la solution du jour avec Elisabeth Assayag, Raphaël.
Faire garder ses enfants parce que vous devez aller travailler, ou tout simplement quelques heures parce que, selon moi, c'est aussi le moment finalement pour les parents de se retrouver un peu seuls. Eh bien, vous allez voir que c'est possible avec Nanny Please, c'est la solution, Elisabeth. Et là encore, une entreprise qui a su s'adapter à la crise.
Oui, Nanny Please, ça existe depuis 2 ans. Ils sont 6 dans l'entreprise et leur mission, c'est trouver l'animateur ou l'animatrice idéale pour occuper vos enfants. Jusqu'à la crise, Nanny Please travaillait surtout avec des hôtels, des festivals. L'idée, c'est de proposer des ateliers pour les enfants présents dans les hôtels, que l'on soit client ou pas, s'occuper des enfants avec des professionnels diplômés qui les accueillent pendant quelques heures. Entre-temps, la crise sanitaire est arrivée et là, ils ont vu tous leurs événements s'annuler. Ainsi, depuis le début du déconfinement, depuis le 11 mai, de nouveaux forfaits sont proposés, des forfaits de garde à domicile que les entreprises peuvent offrir à leurs collaborateurs, des moments de garde d'enfants pendant les week-ends ou encore des demi-journées pour cet été dans différents hôtels avec évidemment le respect du protocole sanitaire. Bonjour Niel Bemra.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Nanny Please. Vous travaillez avec des hôtels. La crise, vous aussi, vous est tombée dessus. Vous avez su réagir. Comment ça s'est passé ?
Bien, écoutez, ça a été un petit peu surprenant parce que on était vraiment en état de lean startup pendant un an. Puis on a eu une croissance assez exponentielle entre janvier et février. Et puis boum, tout s'est arrêté. Après, c'est vrai qu'on est sur un secteur sur lequel il y a toujours du besoin. Donc on a très vite réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait aider justement ces familles qui, pendant le confinement, ont été parents, maîtres d'école, cuisiniers, nannies. Donc ça a été dur, je pense, c'est compliqué. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut les aider pour le retour au travail, bien sûr, et également pour qu'ils puissent justement souffler un peu, décompresser, sortir un petit peu de leur quotidien. que forcément, bah, on a vraiment ressenti leur mal-être. Et puis, bah, les enfants sont des éponges. Donc on s'est très vite remis au travail.
Alors, pour le retour au travail, vous étiez en train d'en parler. Que proposez-vous concrètement pour les collaborateurs des entreprises qui ont des enfants?
Alors, il y a deux offres, vraiment. On propose,
parce
comme vous l'avez dit...
Ne sont pas tous rentrés à l'école. Hein. C'est aussi pour ça que vous proposez cette offre. Hein.
Et certains rentrent à l'école, mais n'ont école que 2 jours par semaine. Donc, ça reste quand même compliqué quand même pour les parents de s'organiser. Donc, on propose, donc, comme vous le disiez, une garde à domicile qui est prise en charge par les entreprises et également des accueils sur l'entreprise. Donc, on va exploiter, en fait, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on exploite des salons d'hôtels de manière générale pour accueillir les enfants.
Et bien
là, on va
pouvoir
accueillir... Exactement. Donc là, on travaille avec la délégation de la petite enfance qui nous donne l'autorisation ou non, ou à voir s'il faut que l'entreprise s'adapte. Mais de manière générale, ça se fait assez bien et assez rapidement.
Alors, comment vous avez eu beaucoup de contacts là? Il y a des entreprises qui vous disent oui, venez chez nous, on vous met à disposition une salle de réunion, comme ça, nos collaborateurs vont pouvoir revenir travailler?
Alors là, en ce moment, en fait, il faut savoir que pour mettre en place ce service, il faut 2 mois. Donc ça, c'est plutôt des offres qu'on va mettre de manière régulière pour septembre, parce que de manière générale, le travail, la manière de travailler va changer. Il va y avoir quand même beaucoup plus de home office, on s'en rend bien compte. Donc voilà, et sinon, c'est surtout là, beaucoup, on a les demandes de garde à domicile.
Clara ?
De groupes, mais aussi de restaurants, vraiment tout type d'entreprise.
Clara Audry, notre coach.
Alors, j'avais entendu parler de vous, en effet, quand vous adressiez le monde de l'hôtellerie, vous permettiez notamment à des touristes anglophones de trouver une solution de garde le temps d'un dîner à deux. Et je voyais 2 avantages en termes de stratégie, c'est que la langue était un avantage compétitif fort et puis la cible était claire et définie. Aujourd'hui, avec ce repositionnement, vous êtes en face de certains acteurs comme Babysitter ou d'autres qui offrent de la garde pour les enfants. Comment vous positionnez et comment vous créez votre communauté, votre nouvelle communauté? Comment vous avez réussi à avoir vos premiers fans?
Alors, je suis d'accord sur le fait que ce soit de la garde à domicile également, comme Babysitter ou Yopis ou autres. Cela dit, on s'adresse vraiment aux entreprises, donc on est quand même resté sur du B2B. Nous, en fait, on a vraiment une plateforme SaaS, donc digitale, qui est vraiment spécialisée que dans le B2B. On n'est pas du tout sur le secteur du B2C. Et au-delà de ça, ça faisait déjà un petit moment qu'on travaillait, notamment avec Microsoft, sur le lancement de nouveaux services de garde sur l'entreprise en packagé, sur des forfaits packagés.
On peut peut-être prendre un exemple, Niel, si vous me permettez. Si par exemple, demain, je dois venir absolument, mais que ce jour-là, j'ai mon fils à garder, vous allez pouvoir dire à l'entreprise je garde l'enfant pendant que la maman est en réunion.
C'est ça. Après, il faut savoir que c'est vraiment des offres pour le confinement, pour la garde à domicile, qu'on fait ça. Ce n'est pas une offre qu'on va garder sur du long terme, mais étant donné que notre communauté d'animateurs professionnels est disponible, vu qu'elle n'est plus dans les hôtels, et bien du coup, on s'est dit, ben, autant leur rendre service aux familles, donner des missions à nos animateurs. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est tout à fait légitime, et en effet, ce n'est pas une offre pour la garde à domicile qu'on va garder sur du long terme.
Donc en là, c'est pour le déconfinement, pas pour le confinement, c'est une offre de déconfinement qui va durer le temps que le monde du travail, le temps que les salariés s'adaptent et que les entreprises déconfinent petit à petit, c'est ça.
Et qu'on puisse vraiment se positionner aussi dans l'entreprise, c'est vraiment le but. Et puis voilà, donc ça fait partie des 3 offres vraiment qu'on a lancées post-confinement.
Elle coûte cher?
Alors ça commence à 450 euros. Ça commence à 450 euros. On a vraiment, on a essayé vraiment de faire en sorte. Par exemple, 450 euros, on a pas mal de restaurants qui nous l'ont prise. On a vraiment essayé d'être accessible afin que ça puisse répondre à tous les acteurs du marché.
Ça s'appelle Nanny Please, offre de garde, donc solution qui s'est adaptée à la crise. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h24.
Europe 1.
Et vous le savez peut-être, c'est la journée mondiale du lait et c'est l'occasion de donner un coup de main à une filière qui en a besoin, la filière fromage en France. À tout de suite.
C'est la journée mondiale du lait, Raphaël, l'occasion dans notre dossier du jour de nous intéresser à la filière fromage.
Oui, parce qu'avec la crise du coronavirus, les éleveurs ont vu leurs ventes chuter, résultat difficile d'écouler toute la production. Alors, pour essayer d'aider la filière, eh bien, vous allez voir que des initiatives ont vu le jour. Bonjour Michel Lacoste.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du CNAOL, le comité qui regroupe hein, l'ensemble des AOP, des IGP laitières françaises. Vous êtes vous-même producteur dans le Cantal. La filière a commencé tout simplement par céder elle-même, si j'ose dire, avec une première initiative que vous avez baptisée Fromagisson.
Bien oui, nous avons pris cette initiative Fromagisson, puisqu'en fait, dans les premiers jours de la crise, du confinement, de suite, on a vu nos ventes baisser. Parce qu'en fait, chacun des consommateurs recherchait des produits de première nécessité. Alors certains produits laitiers, comme du lait en brique, du beurre, de la crème, mais les consommateurs se détournaient globalement des fromages, et tout particulièrement des fromages d'appellation d'origine protégée ou sous IGP. Et donc, afin de, je dirais, de remobiliser le consommateur auprès de nos produits, nous avons lancé ce mouvement solidaire, Fromagisson. Où le principe se voulait de dire, mais voilà, nous, dans le cadre du confinement, moi qui suis éleveur laitier, mes vaches, elles ont continué à produire du lait, les prairies, l'herbe a continué de pousser, les vaches ont continué de brouter, on a fait du lait, on a continué à faire du fromage, et on a absolument besoin que le consommateur continue de consommer nos fromages, d'où cet appel, Fromagisson, un appel solidaire aux consommateurs pour venir, je dirais, en secours à nos fromages d'appellation, qui sont des fromages qui sont tous sur des territoires souvent difficiles, 70% de notre production est en zone de montagne, oui. Des fromages avec des cahiers des charges et avec des noms très connus, Comté, Cantal, Roquefort, Rosso-Irati, Camembert de Normandie. Donc derrière, c'est des cahiers des charges avec des alimentations le plus souvent à l'herbe, des races de vaches spécifiques, des méthodes de fabrication qui sont des méthodes ancestrales. Alors. Donc c'est à la fois une culture, une histoire, l'histoire de la France au mille fromages, le patrimoine fromager
culinaire,
français.
Exactement. Vous êtes en train de parler des cahiers des charges, justement. Il y a eu des changements, Elisabeth, hein, dans ces cahiers des charges, dans certains en tout cas.
Oui, en avril, plusieurs cahiers des charges de fromage AOP ont été modifiés pour faciliter le travail des producteurs. Par exemple, c'est le cas du Rocamadour. Dès le 17 mars, à la demande du syndicat de l'AOP Rocamadour, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, l'INAO, validait une modification temporaire du cahier des charges de ce fromage. Et bon, ce qui a changé, c'est pas le goût, hein. Ce sont des éléments purement techniques pour les éleveurs.
Tout alors, à fait. Peut-être si vous permettez de préciser, à chaque fois, ce qui a été modifié dans le cahier des charges, ce n'est jamais l'alimentation des animaux, ce n'est jamais la façon de faire le fromage. Mais on a pris des mesures pour à la fois assurer la continuité, soit de la collecte de lait, pour ne pas jeter de lait, soit la continuité de l'affinage du fromage pour ne pas jeter de fromage.
Ouais.
Mais toutes les mesures qui ont été prises ont été prises dans un respect de la qualité et dans le respect du savoir-faire historique de nos appellations, tant sur l'alimentation des animaux que sur le savoir-faire fromager. Et ça, c'était très important de garantir cet élément aux consommateurs.
Ouais, d'autant qu'on est en pleine période de production laitière, hein, que ce soit pour les chèvres, les vaches, les brebis. Question peut-être de notre coach, Clara Audry.
C'est vrai que, déjà bravo, parce que vous avez une tâche pas simple, hein, que de respecter ces cahiers des charges, de toujours être fidèle à vos méthodes ancestrales. Voilà, cette crise a dû être très très compliquée à gérer, et relancer la demande n'est pas simple. Hein. Quand quelqu'un n'a pas envie de voyager ou d'acheter quelque chose, il est toujours très difficile de lui faire l'inverse. Alors, quelle peut-être en question, en interrogation, quelles seraient les solutions en fait pour d'abord parer aux plus urgences, je dirais, donc faire survivre ces productions, et puis quelles solutions à plus long terme pour éviter d'être aussi impacté par ce type d'événement qui risque de se reproduire?
Alors, par rapport à ça, en fait, on a lancé un plan en trois étapes. On va y revenir tout à l'heure avec la notion du collectif soutenant nos fromages, nos terroirs.
Oui, ça, c'est votre deuxième initiative, hein, et nos
producteurs, où en fait l'idée, c'est un plan avec un plan de réparation. Donc c'est un plan en 3 R. Le premier R, c'est réparation par rapport aux pertes qu'on a subies pendant la période de confinement, puisque nous avons perdu 40% de nos ventes. C'est l'équivalent de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le deuxième R, c'est la relance. C'est donc toute la période de déconfinement qui va durer, je pense, plusieurs mois, où là, c'est à la fois activer, je dirais, plus de mise en avant de nos produits dans la grande distribution, chez les crémiers fromagers, mais aussi dans la restauration hors domicile. Et nous sommes en contact avec l'ensemble des distributeurs, quel que soit le mode de distribution. C'est aussi peut-être activer des mesures pour arriver à financer des dons de nos fromages vers des publics démunis. Nous avons eu récemment une opération avec GRDF. GRDF a financé pour près de 20 000 euros de fromages qui ont pu être donnés aux banques alimentaires. Donc c'est des opérations qui peuvent se faire comme ça dans la relance.
Et, puis le repositionnement, elles sont très importantes. Hein, ces opérations dont vous parlez. Je voudrais que vous restiez avec nous et qu'on accueille ensemble, si vous le voulez bien, Jean-Luc Duclos, qui est le président de la filière Tom de Savoie. Bonjour.
Bonjour.
Direction donc la Savoie avec vous. Et pour pouvoir aider les producteurs, vous avez, vous, décidé, on en parlait à l'instant, justement, d'écouler la production. Vous avez distribué dans les hôpitaux, les gendarmeries, auprès de la Croix-Rouge, des pompiers, des associations, des fromages gratuitement.
Voilà, donc nous, on a, dès le début de la crise, on a vu qu'il fallait avoir vraiment un élan de solidarité, et notamment par rapport au personnel soignant. Donc, on a pris l'initiative au syndicat d'Atom de Savoie, qui est chapeauté par SavoieSim et AFTALP, c'est l'association des fromages de tradition savoyarde. Donc là, nous, au niveau de notre syndicat, on a mis 30 000 euros. Le AFTALP a mis 61 000 euros au total, et pour que les producteurs qui étaient vraiment le plus en difficulté vendent leurs produits à l'association et le donnent au personnel soignant, aux pompiers, aux EHPAD, aux Restos du Cœur. Et maintenant, on a des liens étroits avec la banque alimentaire.
Combien de tonnes vous avez donné comme ça?
Alors aujourd'hui, au niveau de la tome de Savoie, on est à 10 tonnes de données aujourd'hui, mais ça continue. C'est quasiment toutes les semaines 2 tonnes de produits qui partent à ces associations-là. Et puis après, cet élan-là a été aussi repris par les collectivités locales. Donc ça, je veux bien souligner ça, parce qu'on a le Grand Annecy, on a Chambéry Métropole, on a Annemasse, qui ont suivi dans notre démarche. Donc aujourd'hui, on a réuni plus de 300 000 euros pour que les collectivités achètent du produit aux producteurs qui sont le plus en difficulté, elle offre à la banque alimentaire.
On est vraiment aussi dans une démarche de proximité et de circuit court, hein, clairement.
Oui. Et en fait, quand il y a eu la crise au début, on a aussi fait baisser, comme on a pu, la production laitière. On a fait aussi des transferts entre, par exemple, en IGP, par exemple, à la Tome de Savoie, on a transféré un peu en Emmental, qui est Emmental de Savoie, qui est un fromage de report. On a transféré aussi sur la Raclette de Savoie, qui est aussi un fromage de report. Et après, on a fait vraiment de la communication via nos réseaux sociaux, sur le local, sur le consommé plaisir. Puisque quand on est confiné, il a fallu aussi expliquer aux gens qu'il fallait qu'ils se fassent plaisir. Et on a aussi communiqué sur des fromages sous signe de qualité, IGP, AOP, qui sont vraiment en toute sécurité pour le consommateur.
Oui, Elisabeth, à cause de ce confinement, c'est vrai, et on le voit, hein, la filière fromage a vraiment beaucoup souffert.
Oui, hein, la consommation de fromage AOP, donc AOP, je répète, hein, et IGP, hein, l'indication géographique protégée, et les appellations d'origine protégée ont chuté de 60%. Après le confinement, plus de 10% des fermiers et des laiteries étaient en grande détresse, hein, on peut le dire comme ça. Et les pertes est estimée, vous l'avez un peu dit à l'instant, hein, à près de 160 millions d'euros, rien qu'en 15 jours, hein, entre le 15 mars et en un mois et demi, pardon, entre le 15 mars et le 30 avril. Pourquoi ? Mais parce que les fromageries ont été fermées, les rayons de fromage à la coupe ont diminué dans les magasins d'alimentation, et ces fromages sont restés en grande partie sur les bras des producteurs.
Clara, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose.
Oui, je dois dire qu'en m'intéressant au sujet, je suis assez consternée par cette équation économique qui paraît de plus en plus complexe, avec des prix de vente relativement contraints finalement, une pression des distributeurs, de la concurrence internationale, tout ça c'est un côté de l'équation, et puis de l'autre, un coût de revient qui subit inévitablement l'inflation et des cahiers des charges toujours plus lourds. Donc tout ce qui va développer la distribution de proximité, le digital, je pense, peut, j'espère, essayer d'aider un petit peu. Et peut-être je mentionne une start-up qui s'appelle Phoenix, qui veut redonner une seconde vie aux invendus.
Notre coach Jean Moreau.
Et oui. Voilà. Et je pense qu'il y aurait des choses à faire peut-être avec Phoenix.
En tout cas, on lui signalera tout ça à Jean Moreau, parce que c'est un fidèle de la France Bouge et d'Europe 1, évidemment. Et vous avez raison de le mettre en avant, parce qu'il fait un travail formidable avec Phoenix. Merci Michel Lacoste d'avoir été avec nous. Merci Jean-Luc Duclos. La France Bouge continue.
Il est 13h36.
Europe 1.
Et on parlait de digital. Justement, on va s'intéresser à une plateforme et aussi à un fromage confiné. À tout de suite.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec un dossier consacré aux initiatives pour aider la filière fromage mise à mal par la crise du coronavirus.
Oui, c'est vrai qu'avec cette crise et les mois de confinement, beaucoup d'entre vous ont moins consommé de produits qu'on appelle les produits plaisir. Hein. C'est vrai que les légumes et la viande avaient la priorité, délaissant peut-être un peu plus les desserts ou les fromages. Alors, vous allez voir que les filières se sont organisées. Bonjour Jackie Salingarde.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association nationale interprofessionnelle Caprine. Vous avez décidé, vous, de vous mobiliser pour que les producteurs soient géolocalisables. Comment est-ce que vous avez fait ? Racontez-moi.
Voilà, tout d'abord, quand nos producteurs fermiers, puisque je veux juste rappeler que la filière Caprine est la première filière en France à avoir autant de producteurs fermiers que de producteurs livreurs en laiterie, c'est-à-dire en fromage pour... aller pour faire du fromage à l'industrie, du jour au lendemain, c'est-à-dire le lundi ou mardi du confinement, c'est-à-dire le 15 de mémoire ou le 16, ça y est, tout le monde s'est retrouvé, ça a marché. J'ai entendu tout à l'heure mon ami Michel Lacoste qui évoquait le cas du CNAR, les AOP, les fermiers ont été exactement pareils, ils se sont retrouvés, donc ça ne pose aucun marché. La moyenne avait perdu 70-80% des marchés. Je rappelle juste que ce sont des gens qui font du fromage donc à la ferme, qui leurs animaux qui transferment leurs produits et qui le vendent aussi directement dans ces trois métiers en un seul métier plutôt compliqué avec des délais à respecter très courts parce qu'en fait c'est pas des, ils n'ont pas de fromage de garde, ce sont des fromages quelques tomes mais il y en a très peu, ce sont des produits qui se vendent sous les et qui sont consommés entre 8 et 20 jours.
Oui, et puis vous avez beaucoup de fromages qu'on dit les fromages à plateau hein, finalement, donc extrêmement crémeux comme les Pouligny ou les Valençay. Là du coup c'était encore plus compliqué comme équation.
Toutes les AOP, Michel Lacoste tout à l'heure a très bien développé, les AOP ont été sont encore d'ailleurs assez paradoxal d'ailleurs, ont été très touchés, mais tous les fermiers font ce genre de produits ce ne sont pas que des AOP, ils font des petits fromages, des cabécous, des crottins, toute une variété inimaginable dans la France, dans toute la France entière. Donc on a voulu au travers et avec notre agence de promo mettre en place une plateforme qui est géolocalisée.
Donc c'est hashtag où trouver mon fromage de chèvre, c'est ça ?
Voilà, tout à fait ça. Bon, le temps que ça se mette en place et tout ça, quand on fait quelque chose au niveau national, c'est toujours plus difficile à mettre en place que si c'était directement au niveau local. Je dirais juste d'ailleurs qu'au niveau local, les chambres d'agriculture, les départements, les conseils généraux ont aussi travaillé et ont fait ce genre d'initiative, à plus petite échelle, mais peut-être pareil, mais qui ont donné de très bons résultats. Nous, la nôtre, en tout cas, elle est géolocalisée, elle est pilotée au sein de l'handicap, de notre interprofession.
Ouais, l'Association nationale interprofessionnelle Caprine.
Pour le consommateur, où trouver mon fromage de chèvre, il suffit de quand on est d'ailleurs le producteur, déjà, pour commencer.
Oui, il y a deux entrées pour qu'on comprenne bien dans cette plateforme. Il y a la possibilité de s'inscrire pour les producteurs, pour qu'ils soient géolocalisés, et pour nous, consommateurs, si on veut trouver à proximité un producteur de fromage de chèvre. Et je crois que vous avez recensé quelque chose comme plus de 331 producteurs.
On est aujourd'hui à 400 éleveurs qui sont inscrits sur la plateforme. Où, très franchement, ça a mis un petit peu de mal à démarrer, mais aujourd'hui, ça marche très bien. Et j'espère pour eux surtout que ça continuera. Pour nous, il n'est pas du tout question. En tout cas, je ne me vois pas, moi, un jour, relever ce là,
oui, d'autant qu'on est dans le circuit court hein, aujourd'hui, donc il y a tout intérêt à le conserver. Que dit notre coach, Clara Audry ?
Écoutez, je trouve le modèle de la plateforme vraiment très intéressant. Il permet de centraliser une offre qui est en fait très décentralisée. Donc, et ça me paraît être l'enjeu majeur de la filière. J'avais la même question que vous sur l'utilisation en tant que consommateur. Et je comprends qu'on s'appuie principalement sur du drive vers la ferme, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que le consommateur choisit...
La plupart, c'est ça. Bon, après, il peut y avoir des points de collecte, enfin, en tout cas, ou des points de rencontre avec le fermier. Mais en règle générale, si vous savez où est le producteur, vous allez directement à sa ferme et vous passez commande sur Internet et vous avez, ou pas commande, vous pouvez l'acheter directement si aux heures d'ouverture, si la magasin de fermier chez lui, vous aurez les produits que vous avez commandés ou vus ou recensés sur la plateforme.
C'est une autre manière d'acheter, effectivement, qui est en train de se développer. Elisabeth, je crois qu'il y a la filière Reblochon aussi qui est en train d'agir. Hein.
Oui, le syndicat interprofessionnel du reblochon, donc le reblochon à base de lait cru, là aussi, ça doit s'écouler rapidement. Alors, eux, ils se sont organisés dès le début du confinement. La filière a demandé à tous les éleveurs de baisser leur production de 20%. Ils ont tous joué le jeu, que ce soit le reblochon fermier ou le laitier. Certains producteurs ont eu la possibilité d'aller sur quelques marchés. Il faut savoir que le reblochon, ça représente 1700 emplois directs et 5000 emplois indirects.
Alors, on reste ensemble et puis vous allez voir que le confinement a aussi finalement donné naissance à de nouveaux produits. C'est souvent par hasard que les recettes sont inventées. Et bien là, c'est un peu le cas aussi, direction les Vosges. Bonjour Lionel Vaxler.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes agriculteur associé sur la ferme au Petit Gravier, basé à Saussure-sur-Moselotte, dans les Vosges. Vous avez lancé le fromage confiné. Racontez-moi.
Oui,
c'est un hasard, oui, finalement, sa création.
C'était un petit peu un hasard parce que voilà, nous, on transforme la totalité de notre lait en fromage et tout est affiné sur notre ferme. On est juste deux associés, juste moi et ma femme, pour un troupeau de 25 vaches laitières de race vosgienne, donc notre race locale. Et donc, on fait beaucoup de Master et de Tom, le cœur de massif et le Barcasse, entre autres, et un fromage type Camembert. Et en fait, au moment du confinement, les clients étaient de très, très, très peu nombreux. On a eu très peu de monde à la maison. La vente avait chuté à la ferme de 80%,
ouais,
ainsi qu'à nos intermédiaires, hein, parce que nos petits revendeurs qu'on a dans le secteur, ben, ils n'avaient plus beaucoup de clients non plus. Et on a également une ferme auberge, mais qui a été fermée, donc plus de vente non plus de ce côté-là. Et donc, du coup, on a voulu stocker en cave du fromage. Donc, on avait fait beaucoup de tomes et on fait beaucoup de masters. Et donc, on a voulu laisser un lot de masters de côté parce que, un peu court en main d'œuvre, parce qu'on avait fait des livraisons à domicile pour pouvoir écouler des produits. Et donc, du coup, on a décidé de laisser un lot qu'on avait démarré comme du master. On l'a affiné une fois comme du master et on l'a laissé dans la cave, au fond de la cave, pour voir ce que ça pouvait donner comme fromage.
Donc, la croûte est beaucoup plus fleurie, je crois, et il est crayé au centre et plus affiné sur le dessus, c'est ça?
Voilà, en fait, il a pris toute la flore qu'il y a dans notre lait, donc c'est du lait cru entier qu'on travaille. Et donc, il a pris toute la flore du lait et la flore de la cave. Et en fait, il s'est développé entre les masters, entre nos petits blancs, nos types camembert, et nos barcasses qui sont dans la même cave. Et en fait, le mélange de la flore de la cave et de la flore de notre lait a fait un fromage un peu unique en lui-même. Donc, il y avait une croûte un peu fleurie entre le blanc, le roux du master et le gris des tomes. Et donc, c'est assez sympa visuellement.
Et vous allez le garder, donc, ce fromage, alors?
Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de demandes, en fait. Parce qu'au début, on avait fait juste un lot. Donc, un lot pour nous, sur notre petite ferme, c'était 40 petits masters de 300 grammes et une vingtaine de roux de 700 grammes. Et du coup, quand on a fait déguster, ça a beaucoup plu. Parce que c'est un style avec un caractère que les gens ne connaissaient pas dans notre secteur, dans notre région. Et du coup, ça a beaucoup plu. Et du coup, on en a remis tout de suite en route en confinement. Et le nom est venu tout seul, vu l'époque qu'on était. Donc, ma femme a sorti, on va l'appeler Le Confiné.
Oui.
Et donc, du coup, le nom était assez sympa, avec son petit slogan nouveau, il vient juste de sortir, pour dire qu'on sortait juste de la cave.
Eh ben oui.
Et donc, voilà, ça a pris énormément d'un coup.
Un nouveau-né à la ferme, au Petit Gravier, dans les Vosges. Merci pour votre témoignage. Elisabeth, je voudrais qu'on n'oublie pas les jeunes agriculteurs, parce qu'eux aussi se mobilisent.
Ah oui, ils se mobilisent, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, les jeunes agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes incitent, nous, les Français, en vidéo, à manger des fromages parce qu'ils ont besoin à tout prix du retour des consommateurs. Pour lancer leur appel, ils ont sollicité le photographe Hervé Vidal, il est réalisateur de la société de production cantalienne Les Nouveaux Films, et ils ont travaillé avec lui pour promouvoir donc le fromage AOP Cantal. On peut voir ça sur Facebook aussi, ils mettent en avant les atouts, les avantages de cette production. On peut admirer de très jolies images sur, donc, concernant les jeunes agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Et vous avez compris le message, fromage ici. Achetons et mangeons du fromage français.
Il est Europe 1.
Restez avec nous, vous avez besoin d'un coup de main, la France bouge, vous le donne avec la CCI France. A tout de suite. Il est 13h50, c'est l'heure du coup de main de la France bouge, Raphaël. Avec Nathalie Carré, chargée de mission entrepreneuriat CCI France. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
C'est elle qui regarde de près votre dossier pour vous conseiller, vous orienter, vous donner des pistes, vous ouvrir des horizons aujourd'hui. On va essayer de donner un coup de main à Brice Massex qui est avec nous. Bonjour Brice.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président de Madassen Formation, un organisme de formation spécialisé dans le marketing digital et le digital. Vous existez depuis 2018 et vous avez, je crois, deux questions pour Nathalie.
Oui, alors la première question, c'est que des dispositifs ont été mis en place concernant le chômage partiel, mais par définition, ils concernent plutôt les personnes salariées et pas les TNS ou les dirigeants qui sont exclus de ces mesures. Donc ça, c'était ma première question. Donc qu'est-ce qui peut être proposé à ce niveau-là? Et face à la situation actuelle, on a beaucoup de dirigeants de TPE qui doivent apporter le virage digital de façon rapide. Quels sont les moyens qui sont prévus par la CCI pour les accompagner à ce niveau-là?
Alors Nathalie Carré, qu'est-ce qu'on peut répondre à Brice? Déjà sur la première question.
Bonjour. Oui, sur la première question, bonjour. Alors quand vous parliez des aides, c'était les aides pour se former aussi en tant que dirigeant ou les aides auxquelles on a le droit pour passer la crise?
Alors c'était plutôt les aides auxquelles on a le droit pour passer la crise. Mais voilà, si vous avez des éléments de réponse sur la thématique un peu plus élargie, je suis preneur également.
Alors, les aides pour passer la crise, c'était pour passer la crise. Donc, effectivement, il y en a un certain nombre qui continuent tout le mois de juin. Mais c'est vrai que, tout le mois de juin, ça continue encore. Mais il y a toujours le fonds de solidarité, il y a toujours le PGE. Mais c'est vrai, c'est des aides aux entreprises. Alors, c'est vrai que pour des présidents de SA ou de SASU comme vous, il y a le fonds de solidarité qui a été ouvert. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été restreintes. Après, au niveau de la formation des dirigeants, il y a quand même des dispositifs qui existent. Alors, crise ou hors crise, mais il y a des choses particulières qui ont été mises en place parce que justement, il y a eu ce besoin de transformation digitale, vous en parliez aussi. Donc, en fonction du statut, vous avez des aides différentes. Alors, vous êtes en SASU, donc vous êtes dirigeant salarié. Ben, en fait, vous avez le droit au même dispositif de formation que les salariés, ce qui est plutôt un avantage en termes de montant. Quand on est dirigeant non salarié, en revanche, il y a d'autres fonds de formation. Alors, il y en a encore plusieurs. Il y en a pour les professions libérales, il y en a pour les commerçants artisans, il y en a plusieurs. Et là, le fonctionnement est différent en fonction des fonds. Vous avez des quotas, vous avez des remboursements en fonction des formations. Voilà, ça dépend des statuts. C'est toujours pareil un peu en France. On n'a pas le droit aux mêmes choses en fonction de son statut.
Donc ça, c'est la première compliqué. Partie de la réponse, si j'ose dire, Nathalie. Deuxième question, effectivement, face à la situation actuelle, beaucoup de dirigeants de TPE abordent le virage du digital de façon un peu rapide. Quels moyens est-ce que la CCI peut déployer pour les accompagner?
Alors, c'est vrai que la formation, c'est idéal, mais c'est vrai que ça prend un peu de temps. Du coup, dans les CCI, il y a des dispositifs, effectivement, pour accompagner la transformation digitale. Alors, ce qu'il faut comprendre, quand même, c'est que cette transition digitale, c'est deux choses. C'est d'abord un peu cet esprit, on l'a vu depuis 15 jours, de penser différemment, de beaucoup collaborer, coopérer avec ses clients, d'échanger, de tester des choses. Donc, c'est d'abord un esprit d'agilité. Et puis ensuite, c'est de la technologie, des outils. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord se demander, mais en fait, pourquoi cette transformation digitale? Et puis ensuite, comment? Et donc, le comment, c'est là qu'on arrive sur les outils. Dans les CCI, donc dans quelques jours, on a une offre nationale de transformation digitale, donc vraiment nationale, qui va arriver avec un outil de gestion opérationnelle de la transformation digitale, parce que il faut effectivement l'accompagner, savoir où on en est, comment on avance dans cette transformation. Ça se fait quand même pas sur un claquement de doigts.
Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place à destination.
Exactement. Et puis après, aujourd'hui, il y a déjà des choses dans certaines CCI, notamment les Digiteurs à Paris. Donc beaucoup de CCI ont des choses, mais là, ça sera une offre nationale.
Clara Audry, notre coach.
C'est vrai qu'on voit comment le digital peut trouver sa place, notamment dans les domaines de formation et de l'éducation. Après, moi, j'ai peut-être envie de vous demander, est-ce que vous avez vu dans votre organisme, durant la période de confinement, une hausse de votre activité, ou est-ce que, au contraire, tout s'est arrêté? Et s'il y a eu hausse, que demandent en fait les salariés, les indépendants et les entrepreneurs potentiellement qui vous contactent?
Question pour Nathalie, du coup, ou pour Brice?
Pour Brice, pardon.
Ok. Alors, pendant la période de confinement, on a vu qu'au début, il y a eu une diminution de l'activité. Et ensuite, grâce notamment au effet de formation, on a eu une hausse des demandes pour justement tout ce qui était lié au digital. La difficulté qu'on avait, c'est que ces aides étaient disponibles pour les salariés qui étaient en situation de chômage partiel, mais des dirigeants de petites entreprises qui étaient TNS, par exemple, n'étaient pas éligibles directement.
D'accord. Alors si, enfin Nathalie, enfin pas directement, mais avec notamment donc sur les TNS commerçants, enfin donc au sens qui font un acte de commerce, hein, pas qui ont une boutique. Donc il y a l'AGFIS et l'AGFIS a tout de suite déployé des dispositifs spécifiques, donc qui en plus ne vont pas manger le quota annuel de auquel vous avez le droit par an pour
qui est l'association
pour vous
de
former.
Gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise.
Des chefs d'entreprise. Et donc effectivement, ils ont tout de suite mis en place une facilité pour justement réduire la lourdeur, où d'habitude ils font un mois pour déclencher un dossier, etc. Et vous aviez notamment des choses sur la transformation digitale, parce qu'on sait que pour un dirigeant, c'est important. Alors c'est vrai que c'était pas non plus immédiat, hein, mais disons qu'ils avaient réduit les délais à 2 semaines, quoi. Donc, et ça, c'est toujours disponible, donc faut pas hésiter à en profiter.
Voilà, Brice, qu'on pouvait vous dire. Avec Nathalie, chargée de mission entrepreneuriat CCI France, c'est le coup de main de La France Bouge. Merci Nathalie, on se retrouve demain, juste avant 14h, bien sûr. On retrouvera aussi Clara Audry pour Cap Horn, évidemment, qui est notre coach toute cette semaine. Et puis, Elisabeth Assayag.
À demain, Raphaël.
À demain, Elisabeth. Bonne journée à tous.
À demain, c'était Raphaël Duchemin. Et dans un instant, vous retrouvez Christophe Ondelat sur Europe 1.